Radio Couleur Chartreuse vous présente La Saine Cause. Du bien commun, de l'éducation populaire, des rencontres. Tous les jeudis à 20h et les dimanches à 15h. Émission proposée et présentée par André Duny.
Bonjour. Eh bien, la dernière fois, je vous avais dit que j'en avais pleuré ou équivalent avec les incendies géants. Bien sûr, certains diront qu'avec mes émissions, on a le bourdon. Mais peut-être qu'il vaut mieux avoir le bourdon et réfléchir que de se trouver pris dans la nasse et pris dans les catas. Hein. Regardez ces New-Yorkais, ben, il y a eu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de noyés dans la ville la plus riche, la plus prospère, la plus belle, la plus du monde. Enfin, plus belle, c'est beaucoup dire, mais bon. Eh bien voilà, les métros sont envahis par l'eau, les tempêtes sont 5 fois plus fréquentes qu'en 1970, où le GIEC n'existait pas pour nous dire alerte, alerte, hein, les chercheurs. Voilà, bon, ben moi je suis tristounet, mais on va peut-être voir qu'on peut peut-être s'en sortir ensemble. Hein. J'ai été encore secoué par les tarifs réglementés du gaz, Engie, privatisé maintenant, hein, quand tout sera privé, nous serons privés de tout, ben voilà, ça arrive. Vous avez eu le gaz 1,1% au 1er mai, 4,4% le 1er juin, 10% le 1er juillet, 5,3% le 1er août, et maintenant 8,7% au 1er septembre. 10 700 000 utilisateurs du gaz, et celui qui augmente le plus, plus 9%, c'est le chauffage au gaz. Sachant qu'il y a 3 millions de personnes environ, hein, je fais de mémoire, en précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils consacrent plus de 10 à 15% de tout leur revenu à se chauffer, sachant qu'il y a des centaines de milliers qui ne se chauffent plus. À Valence, j'ai connu des gens, ils avaient mis une tente dans le salon et ils dormaient dans la tente avec des duvets. Parce que c'était soit ils allaient à la rue, soit ils ne pouvaient plus payer leur chauffage. Surtout que là, c'était des grille-pain électriques. Mais le gaz, avec cette augmentation massive en peu de temps, nous montre bien que ce qui est aux mains du privé nous prive de tout. Et puis voilà, bah, écoutez, moi, il y a le gaz, il y a tout augmente. Vous avez vu les loyers ? Et les achats de petites maisons, plus 10%. On ne peut même plus se payer un loyer correct. Vous avez vu que dans la Savoie, c'est plus de 600 € un F4 de 85 mètres carrés. Non, mais attendez, même s'il y a des APL, je discutais avec une amie qui vit en HLM à Saint-Béron, mais c'est affolant. Même avec l'APL, elle a 800 € hein, de revenus, personne seule avec des enfants, et ben elle paye quand même encore 250 € sur les 600 de son F4. Bah écoutez, 800 moins 250, l'APL maximum, moins 5 € des macronistes qui ont voulu raboter sur les pauvres pour donner un peu plus aux riches, ce dont nous allons parler. Que fait l'État ? Eh bien l'État, il choye les milliardaires, c'est une espèce protégée, les milliardaires de l'État français. Et puis quand on regarde, je vous dis mes indignations de lecture récente, hein. Quand je vois que Bernard Arnault, qui a eu 50% de plus de richesse en 2 ans, qui a maintenant 135 milliards, qu'il est propriétaire des Échos, du Parisien, aujourd'hui en France, Investir, Radio Classique, L'Opinion... Et c'est hallucinant, Bolloré, vous savez, groupe Bolloré, Vivendi, Havas, tout ça, qui travaille la logistique, les télécoms, construit des ports en Afrique, et s'occupe beaucoup de publicité, et possède Canal+, C8, et CNews. C'est lui, Vincent Bolloré, le milliardaire qui a CNews. Et vous voyez ce que c'est, CNews. Martin Bouygues, le groupe Béton, construction, route, et puis les télécoms, puisque, voilà, il fait dans le Bouygues portable et télécom. Voilà, il a TF1 en propriété, LCI, TMC, et la famille Dassault là, qui fait des avions, enfin que l'État français lui fait faire des avions qu'il rachète à prix d'or avec des tas de subventions déguisées. Mais il a le Figaro Magazine, le particulier. Bon, la famille Dassault, elle se paye le Figaro. Puis Patrick Drahi, ben, lui, c'est les télécoms. Hein. Ben, c'est BFM TV, c'est RMC, c'est Libération. Ah oui, Libération, tiens, un petit coucou à un certain Aurélien qui lit Libération. Eh ben, si tu lis Libération, tu lis les points de vue des milliardaires, et en particulier de Patrick Drahi. Hein, des télécoms, mais il a aussi acheté l'Express. Oh, ben, il l'a revendu à Alain Veil, tiens. Et Kretinsky, ben, Kretinsky, j'en parlais récemment. Ben, Kretinsky, lui, c'est un Tchèque. Hein. Ben, il fait beaucoup dans l'achat de vieilles centrales à charbon qui réhabilitent. Et voilà. Et comme il y a toujours besoin de plus d'énergie, ça finit toujours par rendre un paquet de milliards. Ah ben, lui, carrément, il s'est acheté Le Monde. Bon, il est minoritaire. Hein, mais Le Monde, Kretinsky, il le partage avec Xavier Niel, hein, les télécoms, hein, Free. Voilà, il le partage avec, Bolloré, avec Pigasse. Pigasse, Niel et Kretinsky se partagent Le Monde. Et c'est pas beau ça, Le Monde, le plus beau journal, le plus objectif, ben, c'est le point de vue des milliardaires. Voilà, ça m'énerve. Et voilà, un petit peu énervé aujourd'hui, tonton André. Et François Pinault, le luxe, hein, c'est le concurrent de Bernard Arnault, François Pinault. Les ventes aux enchères, tout ça, eh ben, il s'est payé le point et point de vue, et ben voilà. Eh ben, la construction navale et l'immobilier, eh ben, c'est Islancar Safa. Voilà, bon, il n'est pas tout à fait de chez nous, mais il s'est payé valeur actuelle et mieux vivre votre argent. Ben oui, il est là au moins, lui, c'est clair. Je suis énervé encore par Blanquer. Vous voyez, Blanquer, qui c'est, Blanquer ? Eh ben dis donc, Blanquer, heureusement que je bosse plus pour toi, parce que je serais en pleine insurrection générale. Déjà que je ne notais pas et que ça m'a valu une baisse de salaire et de notation par toute cette hiérarchie qui voudrait que l'école continue par la note de transformer ceux qui héritent, papa, maman, les musées, les bonnes discussions, les livres, les bons accès, les bons modules, les bons logiciels, l'accompagnement, la bonne qui dessert le repas, le temps pour la famille de se renseigner, tout ça. Et ceux qui héritent avant l'école de tas de savoirs et de la bonne culture, celle qui permet de réussir à l'école, hein, celle où vous faites bien sage, bien soumis, bien gentil, bien... Enfin, je caricature, parce que tous les enseignants ne font pas des enfants soumis, hein, ils essayent plutôt l'esprit critique, mais ils l'essayent avec un moyen qui est peut-être pas celui qui va permettre le plus le développement de l'esprit critique. Et ça, je ferai une émission assez critique sur l'école, son histoire... Mais je n'ai pas voulu le faire avant la 87e émission, comprenez bien, puisque je viens de ce milieu-là et que j'ai pas mal de comptes à régler avec ce milieu-là. Enfin, j'en ai réglé beaucoup, mais... Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, le ministre Blanquer, après avoir dit que le virus n'entrait pas à l'école, eh bien, il dit, au doigt mouillé, comme ça, les gens l'emploient pour le confort, ils achètent des écrans plats. Mais nom de chien, mais il y a de quoi se taper le cul par terre. Voilà un type qui a un bac plus, je ne sais pas combien, plus 10, et il n'a même pas lu François Dubé en 90, qui dans l'école et les familles, le malentendu, enfin moi je me sais que je ferraillais fort à l'école, parce que la masse des enseignants me disait aussi, ah oui, mais attends, ils font des dépenses, achètent des antennes paraboliques, tout ça, au lieu d'acheter des fournitures pour l'école et tout ça, mais non. La réponse que donnait Dubé, après avoir enquêté 12 000 familles, le sociologue de Bordeaux, prof à l'université de Bordeaux, c'est que les familles répondaient, ben non, si on achète si on fait installer une antenne parabolique, c'est précisément pour que nos gamins puissent accéder à certaines chaînes. Ces réponses datent de l'époque, hein, il faut les mettre en perspective avec aujourd'hui, avec le portable et tout le Bataclan. Mais c'était exactement à l'opposé de ce que disait la masse des enseignants de la classe moyenne qui disaient que c'était mal employé. Mais lui, c'est incroyable, quoi, qu'il puisse dire que les pauvres... mais non, toutes les enquêtes récentes montrent que les dépenses sont essentiellement à 90% affectées à l'achat des fournitures scolaires, des livres et des choses nécessaires pour que leurs gamins. Ils n'ont que ça à l'école, les gamins des milieux populaires. Et donc les parents sont bien conscients qu'ils poussent un peu leurs gamins et ils le poussent jusqu'à ce qu'ils puissent suivre lorsqu'il y a les dérivés, les intégrales en terminale. C'est pas papa, maman qui bosse en aide-soignant à l'EHPAD qui va pousser ses enfants à faire des mathématiques de niveau supérieur. Voilà. Donc, où va l'argent des pauvres ? Il y a eu un bouquin, ben voilà, c'est clair et net. Et ben voilà, mais c'est toute une classe qui dirige, c'est une classe de riches qui dirige l'État. Et ils ont une vision paternaliste et méprisante du peuple, abominable, et ils ne font que servir les milliardaires. Ça m'énerve, encore un énervement. Voilà. Et puis l'eau, ça m'énerve aussi, parce que voilà, j'apprends par Arte, mais Arte, je devrais arrêter Arte. Mais vous, allez-y. J'apprends par l'Arte, l'ONU, que la sécheresse prochaine sera la prochaine pandémie, que en 2050, 75% de l'humanité, c'est-à-dire 5 milliards de personnes, auront des problèmes d'approvisionnement en eau, qu'en 2025, on est déjà 50% de toute l'humanité, c'est-à-dire 3 800 000 habitants, on s'approche des 8 milliards, on est déjà affecté à un quart de la population. Il y a plus d'1,5 milliard qui n'ont pas accès à de l'eau potable. C'est hallucinant. Et l'eau augmente. Elle augmente tellement vite. Et je suis indigné, enfin, si on peut encore dire ça, parce qu'elle a augmenté deux fois plus vite que l'inflation. C'est parce qu'on confie l'eau à Veolia. Et Veolia, vous savez ce qu'il fait, Veolia ? Ben, les élus de l'Épin, les élus investisseurs, comme je les appelle, de l'Épin, où il y a trois sympathiques agents immobiliers, hein, n'est-ce pas, sur 11 conseillers qui ont doublé, le maire a doublé ses revenus à première réunion, enfin bref, et puis il a une liste apolitique, puis ils n'ont même pas fait de campagne, rien, même pas une réunion publique pour dire ce qu'ils allaient faire, c'est hallucinant. Alors c'était apolitique, il a reçu M. Wauquiez, hein, et puis maintenant il fait de la propagande pour Wauquiez avec un grand panneau, la région vous soutient, avec notre pognon, des grands panneaux qui coûtent très cher, ancrés dans le béton, mais ce qui fait l'Épin, c'est qu'ils ont confié l'eau à Veolia. Or l'eau de l'Épin, c'est comme en Chartreuse, elle tombe de la montagne, il y a des forêts, comme dans la Chartreuse, puisque l'Épin c'est en Chartreuse, côté du Mongrel lac, mais Mongrel fait partie de la Chartreuse. Et l'eau est parfaitement filtrée, il n'y a pas de saloperie, un simple lit de sable permet de faire une très bonne eau. Je suis arrivé là, il y a 5 ans, l'eau est à moins d'un euro, j'étais heureux, je venais de quitter un endroit où l'eau était à 4 euros le mètre cube, et là, elle était à 0,80 ou 90, en tout cas moins d'un euro. Ben maintenant, elle est près de 3 euros. En 4-5 ans, Veolia, qu'est-ce qu'il fait, Veolia ? Rien, l'eau est parfaite, elle est déjà filtrée, c'est pas pollué le coin, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de glyphosate, il n'y a pas... Eh ben, l'eau a augmenté, a triplé. Et à moi les bénéfices, à moi le pognon, voilà, c'est que ce soit pour les vaccins, enfin qui ne sont pas des vaccins, hein, qui sont des ARN messagers, que ce soit pour l'eau, voilà, et l'eau ça va manquer parce que elle s'est de plus en plus privatisée. Vous avez vu en Australie là, ils achètent des poches d'eau et puis ensuite ils les revendent, mais c'est dément. Et un degré de plus sur la planète, les amis, c'est 7 fois plus d'évaporation. Vous voyez, alors la Méditerranée, elle a pris plus qu'un degré. Eh bien, c'est des tempêtes de pluie diluviennes qui sont dévalées dans la Roya et qui ont ravagé cette vallée qui est la plus sympathique qu'on puisse imaginer, parce que c'est là que c'est les franco-italiens, ils ont pris l'habitude de se serrer les coudes. Je connais cette vallée, pourrait être allé 5-6 fois dans le coin, et quelle image catastrophique de ces vieux qui ont voulu rester dans leur vieille baraque, ont été emportés par les flots, et qu'un an et demi après, y a toujours pas, y a le train qui circule, mais y a pas eu les moyens suffisants pour refaire vivre la vallée. Heureusement que les gens se serrent la main et que voilà. Donc il y a un désastre qui est lié au réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, les amis, eh bien écoutez, c'est simple, hein, c'est 2/3 du réchauffement climatique est créé par même pas 90 entreprises multinationales. Voilà, il faut arrêter de culpabiliser les individus, mais c'est comme ça que ça marche. Blanquer culpabilise les enfants qui ne feront pas assez d'efforts pour réussir, les enseignants qui sont des branlots et qui ne feront pas ce qu'il faut, Et pire, le père Macron, enfin, si on peut dire, qu'est-ce qu'il fait, Macron ? Il va à Marseille, il annonce des, il fait des grosses annonces, comme tant d'autres l'ont fait, Chirac et compagnie, pour dire, ah mais on va faire une expérimentation extraordinaire. Voilà une ville qui a eu des immeubles qui sont écroulés, qui ont... où il n'y a rien été fait dans les écoles, il y a les 9 dixièmes des écoles sont à rénover, il pleut dans des classes, où il y a des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, l'air qui ne circule pas. Eh bien, qu'est-ce que fait Macron ? Il dit, on va faire une expérimentation, on va nommer des directeurs, et les directeurs nommeront les professeurs. Vous vous rendez compte ? La catastrophe, c'est-à-dire que là où, dans l'éducation, alors je ne parle pas des collèges, des lycées aussi, très hiérarchique. Moi, j'ai connu des situations complètement abominables, ayant été à la fois un moment instit, un moment prof de collège en physique-chimie, à Fontaine, dans l'Isère, et ensuite prof de philo dans les lycées, puis ensuite prof dans les écoles normales, et puis ensuite formateur d'enseignants à l'UFM, que j'ai connu, mais des situations de crétinerie hiérarchique inimaginable. Il faut vraiment savoir ce qui se passe derrière pour comprendre comment le système fonctionne. Mais à l'époque, il fonctionnait le système. Il arrivait quand même à faire que quelques pourcents, pas plus, d'enfants, de pauvres, montent un peu dans la hiérarchie. Moi, j'en ai été le vivant exemple, puisque concours d'entrée en sixième, réussite, accès au collège de Pont-de-Beauvoisin, puisque j'avais réussi seulement deuxième, j'ai pas pu aller à celui de Crémieux, ben je suis allé à celui de Pont-de-Beauvoisin, et là j'ai pris mon envol, parce qu'à l'époque il y avait des bourses, après les bourses il y avait l'école normale, parce que je pouvais pas me payer autre chose que l'école normale, vu que l'école normale est gratuite et même vous donnait un petit revenu. Et puis après l'école normale, je me suis dit, oh là là, j'ai pas trop envie de revivre ma scolarité primaire en devenant instit, parce que je m'étais fait chier comme un rat mort à l'école, sauf avec une instite absolument éblouissante, mais bon, comme tout le monde, hein, on a 10% avec qui c'est éblouissant, et puis, mais c'est beaucoup, hein, c'est bien, hein, mais voilà. Et après, ben, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je peux faire ? Ben, j'ai passé le concours des IPES, Institut de Préparation, au professorat du second degré, allez, 3 ans encore gratuits pour terminer la licence, commencer une maîtrise, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai pu grimper, sinon à garder des chèvres, vous savez, avec un milieu d'ouvriers agricoles, j'étais condamné à l'usine d'aluminium, d'arandon, etc.
I asked your mother for you. She told me that you was too young. I wish to the Lord I'd never seen your face. I'm sorry that you ever was born. Irene, good night, Irene, good night, good night, Irene, good night, Irene, I'll get you in my dreams. Sometimes I live in the country, sometimes I live in town, sometimes I have a great notion, jump into the river and drown. Irene, good night, Irene, good night, Irene, good night, Irene, I'll get you in my dream. Stop rambling, stop your gambling, stop staying out late at night, go home to your wife and your family, sit down by the fireside bright. Irene, dreams. I love Irene, God knows I do. Love her till her sea runs dry. If Irene turns her back on me, gonna take morphine and die. Irene, good night. I'll get you in my dreams.
Et là, qu'est-ce qu'il dit le Macron ? Que là où il y a quand même dans l'école quelque chose de bien sympathique, c'est que les instits, il n'y a pas de hiérarchie. Si vous avez une école avec une dizaine d'instits, personne n'est le chef. Il y en a un qui assume les fonctions administratives de coordonnateur, on appelle ça parfois directeur pour les parents si vous voulez, mais ce n'est qu'un coordonnateur, il n'a aucun pouvoir d'embêter ses collègues ou les obliger à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Il doit animer l'équipe pédagogique, etc. Alors ça marche pas, mais ça marche 10 fois mieux que d'avoir, comme dans les lycées ou dans les collèges, un hiérarque qui va faire l'emploi du temps le mieux possible pour sa copine ou ceux qui blairent bien, et puis faire un emploi du temps dégueulasse aux jeunes premiers qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire ? Où c'est tout tenu par la hiérarchie. J'avais un ami proviseur au lycée de Nyons, dans la Drôme, qui faisait des choses sensationnelles, qui prenait son petit déjeuner à 7h le matin dans les cafés avec les lycéens, qui avait fait une salle de discussion démocratique pour que les étudiants donnent leur avis sur la vie au lycée, qui faisait avec ses professeurs un max d'aide au projet pour ce monsieur Chant, d'ailleurs, grand hommage à lui et vibrons à sa mémoire. C'était vraiment un lycée où les gens venaient de partout, parce que dans le système public, on avait enfin moins de notes, moins de cours magistraux, moins de passivité, mais on appelait les lycéens à vivre leur lycée, à le prendre en charge, à préparer des fêtes, à faire des réunions, à s'interroger, voilà. C'était un foyer vivant de démocratie et d'intelligence, ce lycée de Nyons. Et il avait une prime. Il y a une prime pour les proviseurs. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce qu'ils ont des primes qui vont de 5 000, je crois, à 15 000 € par an, en fonction de leur bonne obéissance au système. C'est le recteur qui va déterminer qui va avoir sa prime. Or, Chante, qui a fait des choses sensationnelles, je peux en témoigner, j'ai fait plusieurs réunions là-bas pour le GFEN, Groupe Français Éducation Nouvelle, ce proviseur-là qui faisait un boulot extraordinaire, et bien il avait la plus mauvaise note. Il avait une petite prime. Alors, l'équivalent aujourd'hui, alors, ça devait être, oui, l'équivalent de 1 500 €, même pas, non. Il a eu le minimum, c'est-à-dire 800 ou 700, l'équivalent de 700 ou 800 euros. Tout à l'heure, je me suis trompé, hein, c'était en francs. Voilà, mais la prime peut monter beaucoup plus, c'est-à-dire 5-6 fois plus. Voilà, c'est comme ça qu'on tient dans la hiérarchie les hiérarques qui ensuite reproduisent le système pour ceux d'en dessous. Et ben voilà, ce qui m'énerve aujourd'hui et dont je vous fais part. Et du coup, comment vous dire, il y a un autre truc qui m'énerve, mais alors il est beaucoup plus grave. C'est la boîte à milliards. L'ensemble des milliardaires sur la planète, c'est 80 000 milliards de dollars. 80 000 milliards de dollars. Avec ça, vous réglez tous les problèmes de mise à l'abri des populations les plus fragiles, les plus exploitées, les plus dans la misère, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est. Vous permettez quand même qu'on prenne des mesures pour avoir une énergie moins chère, moins carbonée, plus locale, pour lancer la démocratie partout. Mais depuis le quinquennat Macron, ça m'énerve, parce que les 500 premières grandes fortunes de France, ça c'est le magazine Forbes, hein, et ben, les 500 plus riches des 67,5 millions de Français, et ben, ils ont accru leur fortune de 73%. Vous avez un milliard, et ben, vous avez 73% d'un milliard, 1 milliard 700 millions à la fin de ce quinquennat. C'est hallucinant. À eux seuls, ces 500 premières grandes fortunes françaises font 1000 milliards d'euros, c'est-à-dire presque la moitié de toutes les richesses en valeur ajoutée produites par la France et les Français dans toutes les industries, le commerce et tout ça en un an. C'est-à-dire qu'ils possèdent à titre personnel, soit en patrimoine immobilier, soit en valeur déposée dans des banques, plutôt en valeur qui travaille. Et quand ça jute du côté du pétrole, ils ne se gênent pas à investir dans le pétrole, dans le charbon, dans l'huile de palme, tout ce qui fait pognon. Voilà. Et des pauvres, ben, en France, c'est sympa, hein, on en a 1 million de plus. Ça y est, on s'approche des 10 millions de personnes pauvres, c'est-à-dire 50% du salaire moyen, c'est-à-dire 1060 euros par unité. Hein, quand vous êtes deux, c'est beaucoup moins. Hein, la deuxième, elle a 600 euros, et puis troisième, débrouillez-vous avec ça. Voilà. Alors, moi, ça m'énerve. Voilà. Et ça m'énerve encore plus que tous ces milliardaires de la planète s'envoient maintenant en l'air, avec, en orbite plus exactement, avec des fusées qui coûtent des milliards, des centaines de millions et des milliards. Tout ça parce qu'après avoir salopé la planète, ils espèrent s'envoyer peut-être sur une autre planète. Bon, de toute façon, ils ont déjà bien leur ferme à plusieurs dizaines de millions d'euros en Nouvelle-Zélande. Ils ont en Suède des propriétés gigantesques. Ils ont eu leur yacht en Méditerranée, j'en ai parlé, j'en reparle plus. Alors il est temps de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Eh bien, on va faire qu'il faudrait peut-être arrêter le robinet de l'assistance aux riches. L'ensemble des aides sociales, incluant l'action sociale, c'est-à-dire le financement de l'activité des agents publics remplissant les missions, hein, de l'action sociale comme la CAF, etc., est chiffré par la DRES, c'est un organisme d'État, à 69 milliards d'euros. Les pauvres nous coûtent un pognon de dingue, a dit notre président, c'est-à-dire en gros 70 milliards par an. C'est énorme. Non, c'est rien, c'est 3% du PIB. En 1916, le PIB, c'est 2230 milliards. Actuellement, le PIB doit être 2400 milliards. Voilà. Donc, on est à 3%. Et les riches ? Eh bien, l'assistance aux riches, c'est 300 milliards d'euros par an minimum. 4,3 plus que les aides sociales. Et ces aides aux riches, elles vont où ? Elles vont aux riches, c'est-à-dire aux 500 plus riches. Pour l'essentiel, c'est-à-dire ceux qui possèdent les usines. Voilà, le plus gros morceau, ben, c'est la fraude et l'évasion fiscale. Entre 60 et 80 milliards par an. Si on recrutait des inspecteurs des finances à gogo et qui se mettent à travailler sur ces évasions fiscales, ces fraudes, on rapporterait un pognon dingue. D'ailleurs, on a commencé timidement et ça rapporte 20 fois plus que de payer des fonctionnaires, même si on les paye bien, hein, ils sont quand même assez bien payés. Voilà, l'évasion fiscale, voilà, ben, c'est 200 milliards par an de pertes pour les finances publiques en France. Bon, allez, on va dire seulement 150 milliards. Hein, fraude et évasion fiscale. L'évasion fiscale étant 80 milliards. Ben, le second poste assistant aux riches et aux grandes entreprises qu'ils possèdent, hein, c'est les niches fiscales. Bon, allez, on ne va pas être trop méchant, on va dire, quelques milliards. Et puis, comme on ne connaît pas trop le détail, quoi. Mais dans le passé, il y a quand même eu des études sérieuses, plus trop maintenant. Et le montant total avec le CICE et le pacte dit de responsabilité de 2014. Voilà, l'Observatoire des inégalités dit que c'est un manque à gagner avec tous ces allègements de charges, ils appellent ça des charges, enfin, des cotisations, ils ne payent pas leurs cotisations, la sécurité sociale, l'État les dispense. Eh bien, c'est 100 milliards d'euros à la fin de la décennie. Eh bien, c'est quand même pas mal. Il y a 46 milliards annuels de cadeaux sans contrepartie du crédit impôt par an, hein. On dit 40 milliards, c'est pas 40 milliards, c'est 46 milliards. Le crédit impôt compétitivité, CICE, avec le pacte de responsabilité de Hollande, ça fait 46 milliards. Donc au total, cette espèce de truc qu'on peut appeler un ensemble de niches fiscales est estimé par les économistes, là c'est mon ami Jean Gadret, hein, professeur à l'université de Lille, qui les estime, qui a fait le calcul et qui donne des graphiques, et ça approche les 150 milliards d'euros de niche fiscale. Et le rapport d'audit citoyen sur la dette publique de 2014 dit aussi 150 milliards. Plus les exonérations de cotisations sociales et autres niches sociales, 52 milliards de la Sécu. Au total, hein, parce que là, j'ai parlé que des aides de l'État, mais les allègements de charges de la Sécu, c'est 52 milliards. On en est à 250 milliards d'euros annuels d'assistance aux riches. Et le troisième gros poste, c'est la baisse de fiscalité sur les revenus et le patrimoine des plus riches. Et alors là, ça a baissé un max. Voilà, il n'y a pas de progressivité de l'impôt. Voilà, hein, vous avez vu la baisse du taux d'imposition sur les sociétés tellement énorme dans les pays d'Europe, et où en France il est légèrement plus élevé, mais on est à un taux de 33%. Mais attendez, pendant la guerre aux États-Unis c'est 90%, avec 10% restant, si vous avez des dizaines ou des centaines de milliards, vous avez de quoi vivre. Les cadeaux Macron, c'est 7 milliards par an concernant la réduction de l'ISF à une peau de chagrin. Hein, la peau de chagrin, bah, c'est qu'on ne taxe que les résidences immobilières. Donc ça fait quand même 7 milliards. Alors moi je crois qu'il faut s'énerver, les copains. Il faut s'énerver et il faut essayer de récupérer du pognon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a deux hypothèses. Hein. Soit on régule le système, hein, on lui met des lois, on fait comme Biden. On met tout ça à 25% pour les GAFAM et puis peut-être un peu plus pour nos multinationales à nous. Mais j'ai un petit problème que je voudrais vous soumettre. Est-ce qu'il faut réguler le mal ou chercher à le déloger? Serais-je trop radical, trop ambitieux face à l'énormité des catastrophes qui nous attendent, causées pour l'essentiel par ces riches? Face à l'énormité de ces adversaires qui ont tous les moyens, je l'ai dit, la presse, la publicité, les médias, l'école, et qui gèrent le système électoral aussi. Hein. Vous savez que Macron a été soutenu massivement par son ami Bernard Arnault, LVMH. Ça, on l'a su que sur le tard, on l'aurait su, on n'aurait pas voté pour lui. Mais on l'a su sur le tard, hein. Sa femme Brigitte a été préceptrice des enfants de Bernard Arnault. Oui, ils se tiennent comme cul et chemise, diraient certains. Alors, est-ce qu'on fait une solution adaptative? Eh bien, si on fait juste une petite régulation sympa, on installe de manière durable la légitimité de cet ennemi en le rendant acceptable. Ben oui, ça y est, ils payent leurs impôts, il y a progressivité de l'impôt, on a encadré la publicité, on encadre les journaux en réduisant la part des milliardaires, etc. Bref, on fait des lois sociales, et finalement on se retrouve avec le même système, où par tous les ports et avec des armées d'avocats d'affaires, ils vont réussir à contourner, à exploiter, à chercher la faille et à s'enfiler dans la fente où il peut passer du pognon en masse ailleurs que dans l'économie. Mais quelle économie? Ils investissent là où ça jute. Ils ne font pas d'économie vivrière qui nous aiderait à mieux vivre. Ils investissent là où ça fait du pognon. En ce moment, le pognon, c'est Big Pharma. Entre 30 et 70 euros la dose, vous comprenez bien que si vous avez 6-7 milliards de doses, vous êtes, vous avez toussé le jackpot d'ailleurs. Vous avez vu, hein, que le PDG français de Moderna, il est passé de 800 millions d'euros de fortune personnelle à 3,7 milliards. Et pour lui, tout va bien. Pas sûr que ce soit très très efficace tout ça. Alors, ben, moi, je crois qu'on devrait attaquer le problème à la source et s'attaquer à quelque chose qui est un gros mot. Ben, vous allez me dire, ben, pourquoi vous en avez déjà dit des gros mots, hein? Eh bien oui, j'en ai dit des gros mots. Tiens, ben, justement, il y en a un que je voudrais dire. C'est un très, très gros mot. C'est par rapport à ce qu'on appelle la batteuse et brancheuse de, vous savez, cette espèce de d'engin sur chenille monstrueux avec un moteur de je ne sais plus combien, d'au moins 900 chevaux, pire que les chars de combat sur lesquels j'ai fait mon service militaire. Moi, seul prof de philo, ayant manœuvré avec nos chars de combat au 503e régiment de chars de combat de Mourmelon-le-Grand, qui se préparait à la guerre avec la Russie soviétique en allant sur la bataille de l'Avant, en guerre bactériologique, chimique et nucléaire avec nos combinaisons, nos chars invincibles. Quand on démarrait 52 chars, il y avait 20 en panne au bout de quelques kilomètres. Les Tigres allemands, ils étaient nettement mieux entretenus, hein. Et bien la batteuse, qui ressemble à un char de combat, elle coupe, et tenez-vous bien, 30 arbres à l'heure dans les forêts. Et c'est des coupes rases comme il y a eu à Tignan-Saint, Lépin-le-Lac. Qui laisse faire ça? Pourquoi les élus ne gueulent pas? Bref, je suis énervé. Parce que le bois est maintenant c'est Total qui met la main sur le bois granulé, qui est un chauffage moins désastreux que le pétrole ou le gaz qui augmente et qui vont augmenter et continuer d'augmenter. Bref, les milliardaires se mettent partout où il y a du pognon à faire. Eh bien, il faut scier la branche sur laquelle sont assis les milliardaires. Eh bien, ben voilà, eh ben écoutez, pourquoi on ne le ferait pas? Regardez au Chili. Hein, je cite souvent le Chili, ils font bien une constituante qui va en quelque sorte dire que ils ont élu 2/3 des constituants, des élus qui vont élaborer la constitution qui sont anticapitalistes. Bon, j'espère bien qu'on va dire qu'on va mettre une fin à ce bazar.
Known and I'm lonesome. Until I first met you, I was lonesome. But when you came inside, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You really swell, I must admit you deserve expressions that really fit you. And so I racked my brain, knowing to explain all the things that you did to me. Find me a bit to shame. Again, I'll explain. Find me a bit to shame means that you're grand. Find me a bit to shame. Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I'll try to explain, by me best to shame. So kiss me and say you understand. Each language only helps
me tell you how great you are. I've tried to explain, but be best of shame. So kiss me and say you understand. By me best of shame.
Voilà, en tout cas, Macron aura osé supprimer l'impôt sur la fortune. Au nom de la fameuse théorie du ruissellement, plus il y a de riches, plus ça ruisselle sur les pauvres, plus les pauvres sont riches. C'est exactement l'inverse qui se passe, puisque les propriétaires des moyens de production s'enrichissent en exploitant les plus pauvres, et non pas en les ruisselant. Les salaires en France sont trop bas, il faut les augmenter, il faut prendre sur le patron. Mais ça, c'est... On prend une part du gâteau, il est toxique, on en prend une part, il faut une part de plus, et c'est plus possible qu'on vive avec les salaires qu'on a. Mais peut-être qu'il faudrait aussi prendre pouvoir sur la propriété de ces moyens gigantesques de production qu'on peut appeler la technostructure capitaliste ou la méga-machine capitaliste. Il faut absolument limiter la propriété. Voilà. Eh bien, Challenge nous dit que les ultra-riches se sont enrichis comme jamais, puisque la fortune des 500 plus riches a cru de 30% rien que cette année, et celle des 109 premiers de 34%. Et que notre champion national a gonflé de 57%. Mais c'est hallucinant, ça. Alors, tous ces gens-là, ils se distribuent des dividendes dans leur conseil d'administration, qui sont propriétaires de ces grosses entreprises, que ce soit d'Internet ou de l'industrie ou du pétrole ou des grandes surfaces. Et moi je crois qu'il faut faire un impôt massif. 350 000 Français sont assujettis à l'ISF sur 38 millions de foyers fiscaux en France. Eh ben, nous dit si vous leur prenez le pognon, ils vont fuir vers l'étranger. Ben, il faut rétablir la vérité. 358 000 foyers qui étaient assujettis à l'ISF jusqu'en 17 que Macron a supprimé, hein, le président des ultra-riches, comme disaient nos amis les Pinson Charlot. Eh bien, 358 000 foyers, hein, sujets à l'ISF sur 38 millions de foyers fiscaux. Eh bien, entre 1997 et 2018, disais-je, est-ce qu'ils ont fui la France parce qu'ils étaient assujettis à l'impôt ? 0,2 à 0,3% avaient quitté le pays. Vous vous souvenez de Bernard Arnault qui allait s'installer sa résidence de luxe en Belgique ? Casse-toi, riche con, avait écrit Libération à l'époque. Ça a coûté très cher à celui qui a décidé de faire c'était joli comme formule. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Sauf que vous avez vu à qui appartient maintenant. on pourrait plus faire un titre pareil. Aujourd'hui, que les milliardaires possèdent Libération. Hein, je vous l'ai dit, qui est-ce qui possédait Libération ? Et donc, ce ne sera plus casse-toi, riche con. C'est casse-toi, pauvre con de pauvre. Le rétablissement de l'ISF est une évidence, mais le rétablissement de tranches énormes sur les hauts salaires en est une autre, et la reconversion de toutes ces industries pour ne faire que ce qui est utile et nécessaire s'impose. Le plus urgent, les amis, c'est vraiment, vraiment, qu'on attaque par les deux bouts une loi ou un référendum d'initiative citoyenne ou une constituante qui dit « on arrête avec ça ». Moi, je suis bien qu'on renationalise vite fait, bien fait, le Crédit Agricole qui finance des usines à charbon en Turquie, et qu'on le mette en faillite. Vous savez, c'est simple, hein, et quelqu'un d'attaque était sympa à l'époque, il s'appelait Nikonov, qui disait, vous savez, hein, si on veut prendre le pouvoir, c'est très simple. Hein. On gagne les élections. Alors lui, vous voyez ça du côté élections. Ça peut être aussi bien comme au Chili, des manifs de masse. On gagne à 8h01, on déclare que le Crédit Agricole est en faillite. Tout le monde retire son pognon du Crédit Agricole ou d'une autre banque, hein, n'est-ce pas ? Je ne veux pas m'attirer des ennuis du Crédit Agricole. Et qu'est-ce qui se passe ? Crédit Agricole, ses actions ne valent plus rien. L'État rachète pour 1 euro, enfin, je veux dire quelques centaines de millions d'euros, quelques milliards. Et hop, ils recapitalisent et hop, on met le Crédit Agricole entre les mains du peuple. C'est tout à fait faisable. On peut faire des petites sociétés locales d'aide au financement de serres municipales, de régies publiques alimentaires, de légumeries municipales, de conserveries municipales, de magasins municipaux, de forêts. Les forêts, une bonne partie des forêts, sont des forêts communales. On devrait s'y intéresser, les amis, parce que la forêt, c'est peut-être ce qui va nous permettre de faire rouler au gazogène, pas trop polluant, encore quelques camions ou quelques ambulances. C'est ce qui va nous permettre de faire de l'alcool méthylique, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour faire rouler ce dont on a besoin, peut-être un tramway en chartreuse, peut-être, voilà, bon, bref. Mais surtout pas l'hydrogène. L'hydrogène, mais ça va être des bagnoles à 60 000 euros. Ça coûte cher et quand ça explose, ça bousille, ça brûle tout dans un rayon gigantesque. Ça dépend de la taille du réservoir, mais il faut un réservoir extrêmement solide pour contenir de l'hydrogène liquide. La preuve, regardez les fusées. Il y en a combien de centaines qui ont explosé au décollage parce que les soudures avaient lâché. L'hydrogène liquide, c'est une catastrophe annoncée. Et c'est très cher, parce que l'hydrogène, ce n'est pas une énergie. Ça n'est pas une énergie. Alors le droit à l'énergie, ça passera par des petites unités locales. Vite, je l'avais dit, il faut renationaliser, puis ensuite localiser entre les mains de la population, avec des rites municipaux, des assemblées populaires locales. Il faut renationaliser le barrage de Saint-Béron sur le Guier. Ça fera de l'électricité pour 40 000 personnes. Pas plus que de l'électricité, surtout pas avec des grilles de pain. Pas juste ce dont la population a besoin, juste le naturel et le nécessaire, besoin naturel et nécessaire. Pas d'avoir du plastique par milliards de tonnes, rien que du naturel et du nécessaire, de la culture, de la joie de vivre, des fêtes, des rencontres, se parler et vivre à l'ombre de la nature, refaire de la nature partout où elle est détruite, des zones humides, des étangs, des lacs, bref. Donc moi, je voulais vous soumettre ça. Hein. Quand je parle, c'est pour forcément la vérité qui sort. Mais la question que je vais poser aujourd'hui, est-ce qu'il faut réguler le mal ou chercher à le déloger? Est-ce qu'il faut mettre une loi à 15% de taxation des GAFAM ou est-ce qu'il faut mettre la main dessus et que le peuple dise, allez, terminé, tout ça c'est à nous les copains, on va vous reconvertir dans quelque chose de véritablement utile, faire un petit internet qui ne casse pas, parce que là ça va tout casser. Internet c'est devenu un système monstrueux, complexe. Plus de 22% de l'électricité de Paris pour faire tourner les data centers. Vous savez, ces gros disques durs qui stockent nos données, avec les 900 millions de visions porno chaque jour, avec Internet, un désastre. En même temps que ça pourrait être, peut-être, s'il y avait un Internet sympa comme au début, peut-être utile sur certains sujets, Il faut arrêter cela, et je vous ai montré qu'avec les banques, on peut tout à fait les localiser, les relocaliser, et en faire des outils de développement non croissants. C'est-à-dire faire de la valeur ajoutée sans croissance quantitative. C'est-à-dire en faisant du bon bio, y compris avec un petit peu de chevreau, un petit peu de lapin, un petit peu de poulet, parce que je ne suis pas vegan 100%. C'est vrai que j'ai raconté à tout le monde, je n'ai pas fait les courses depuis 10 jours, je n'ai mangé que des légumes et des fèves et du pois chiche et des lentilles et je ne me porte pas plus mal. Mais cependant, quand même, un bon lapin qu'a amené mon ami d'Avrécieux, je ne vous dis pas son nom, tiens, bon, petite ferme d'en haut d'Avrécieux, il fait du lapin rien qu'avec de l'herbe. Écoutez, j'ai faim, un lapin avec des oignons, aux petits oignons. Il n'y a rien de plus délicieux qu'un lapin aux petits oignons. Mais ne dites pas ça aux véganes, ils vont m'écorcher comme ce copain a dû écorcher son lapin. Il m'a expliqué qu'il les tuait, il les tuait d'une façon qui leur faisait pas mal. Je crois qu'il a un engin qui... c'est instantané, quoi. Bon, vous voyez, il faut des solutions radicales à une époque où la radicalité du désastre est devant nous. Et même, elle est sur nous. Plus d'eau. Un air qui nous fout le cancer, des broncholites, une eau polluée, une eau qui va devenir rare, des une terre polluée à 90% en France, un pinard bio où il y a 10-12 additifs plus un truc pour empêcher les ferments de continuer de fermenter, le sulfite qui vous fout le cancer, voilà, il faut du vin naturel, comme les frères Vincent à Sainte-Marie-d'Alvet, du bon pinard, entièrement bio, sans aucun ajout, sans soufrage, avec une vigne qui est bio depuis X générations, avec du bon fumier, de leur vache bio. S'il n'y avait pas de vache, si on ne fait pas de polyculture et d'élevage, comment voulez-vous qu'on fasse du bon maraîchage? Sinon, bah écoutez, le maraîchage bio que je vois, notamment à Map du Lac ou ailleurs, c'est 85% c'est 100% c'est fumier pas bio, dans lesquels il y a tout ce que vous savez, que la vache a mangé, les tourteaux de soja avec de l'OGM dedans, avec du Roundup, avec des vaccinations, avec ceci, avec cela, et voilà. C'est ça le bio, hein. Puis le bio industriel avec 10 tonnes d'eau par serre chaque jour, ça fait beaucoup des légumes plein de flotte, mais ils sont bio, mais ça ne vaut pas mes patates qui sont, quand on les coupe, l'autre jour un prof de yoga est venu me rendre une petite visite sympa, il n'arrivait pas à couper ma patate, parce que ma binge, elle est récoltée fin août, elle a mûri, elle est dense, elle est pleine de nutriments, une patate cultiver avec amour, dans, eh ben c'est un nutriment extraordinaire pour la santé. Tandis que si vous faites des patates mutagènes, parce que maintenant on a des patates mutagènes, elles sont énormes, c'est comment on appelle ça, un sexe de taureau, là, je vais pas dire le nom, hein. C'est absolument énorme, donc comme ça pour éplucher c'est plus commun, c'est tout blanc, c'est tout pâteux, et le couteau rentre dedans comme dans du beurre, c'est pas de la patate, c'est du mutagène qui est non pas autorisé ni interdit, puisque ça n'existe pas. Il n'y a pas de réglementation de l'Europe pour les mutagènes. Hein. On a obtenu ça dans les solutions d'acide et de radioactivité. Et les graines qui réussissaient, ben, et qui faisaient des grosses patates, ça a modifié le génome de la plante. C'est plus du tout ce que le Seigneur, pour ceux qui croient au Seigneur, ou moi qui crois à la complexification dans la nature des premières algues, des premières bactéries en système plus complexe, qui fait que dans une poignée de bons composts, il y a plus d'êtres vivants que dans tout l'univers. Dans tout l'univers, il n'y a de planètes, et de soleils, et de galaxies, eh bien, ça fait du très bon légume. Plein vent, plein champ, pas trop d'eau, de la couverture, pas de plastique. Dans tous ces trucs bio, plus ou moins industriels, il y a le plastique, il y a la flotte, il y a le fumier pas bio. Non. Voilà, j'étais énervé, et je dis qu'il faut sortir du système, et je vous remercie.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.